La question que pose Jésus dans l'Écriture, évidemment, il nous l'adresse à chacun d'entre nous. Que cherches-tu ? Faut pas se mentir, on cherche tous quelque chose. Tous. Ben pour certains, ça peut être l'argent, pour d'autres, ça peut être le pouvoir, pour d'autres encore, ça peut être le bonheur. Aimer, être aimé, tout simplement la paix dans l'instant présent, savoir recevoir tout simplement ce qui est donné de Dieu. Bref, on cherche tous toujours le bonheur. Et parfois, on se trompe et parfois, c'est difficile de le trouver. Alors c'est justement ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. C'est une façon sûre de le chercher, de le trouver et d'en profiter. Les choses sont simples. Pas besoin de faire de choses très compliquées. C'est le bon Dieu qui nous conduit et c'est le bon Dieu qui nous conduit à cette forme-là de bonheur. Je ne parle pas du bonheur des boîtes de nuit, du bonheur de gagner au loto, du bonheur, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu factices. Il n'y a qu'à lire les journaux pour s'en rendre compte. Alors, que cherchez-vous ? Le bonheur, bien sûr. Premier panneau indicateur, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêche et Jean-Baptiste qui attend son cousin qui doit venir et Jean-Baptiste qui représente aussi tous ceux qui sont capables de voir où est le bonheur. Et on en connaît tous. On connaît tous des gens qui, ou parce que ce sont des gens très près de Dieu, ou parce que ce sont des sages, parce que ce sont des philosophes, des gens qui ont traversé la souffrance une fois, deux fois, trois fois, qui en sont revenus, qui ont grandi, on les voit, on sent bien qu'en eux et avec eux, on peut découvrir une partie du bonheur. Alors, Jean-Baptiste est l'un de ceux-là, il est dans le désert, c'est un prêtre du temple, et dans le désert, il continue à annoncer le Christ qui vient, les foules viennent vers lui. Donc vous connaissez par cœur l'histoire et les gens se baptisent. Petit détail, il ne devrait pas être dans le désert, hein, Jean, le Baptiste. Il devrait être dans le temple, parce qu'on est prêtre de père en fils. Hein. Il est dans le désert. C'est-à-dire dans un endroit où, a priori, ce n'est pas vraiment le lieu du bonheur. Ce n'est pas le moment où on va trouver le bonheur. Et pourtant, il est le premier à indiquer où est le bonheur à ses disciples ? Un plus grand bonheur que de le suivre lui, c'est de suivre Jésus. Et il l'indique d'une façon un peu particulière, puisqu'il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Moi, on me dirait, « Si tu cherches le bonheur, regarde l'agneau. » Enfin, je veux dire, un agneau, c'est un agneau, quoi. C'est que un agneau. Sauf que les disciples sont des sémites, les disciples ont lu l'Écriture, et quand on dit « agneau », vous irez voir vous-même dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs occurrences, mais il y en a notamment une qui tout de suite les touche. Quand est-ce qu'on mange l'agneau ? Ben ça leur rappelle tout de suite le lieu de la libération, le moment où le Seigneur est venu les libérer des Égyptiens, où il les a conduits. Donc, agneau, pour eux, dans leur tête, égale libération. Ils ne sont pas encore en train de penser au sacrifice de Jésus. Vous voyez, peut-être qu'ils ont lu Isaïe, et qu'évidemment, peut-être qu'ils y pensent aussi. Mais agneau, pour eux, immédiatement, libération. C'est la migration de la prison vers la libération. Donc, premier message, si tu le suis, lui, l'agneau, tu seras libéré. Tu profiteras de la libération. Alors qu'est-ce que font les disciples ? Ils n'ont pas encore rencontré Jésus, mais ils se mettent en marche. Et ça, c'est une démarche, c'est quelque chose qu'on fait, nous, je trouve, assez souvent. C'est-à-dire qu'on sent bien que le bonheur peut être quelque part, vous voyez, et on commence à se mettre en marche. Et on commence à marcher. On recommence à marcher. On commence à faire des choses qui, petit à petit, vont nous révéler où est la vérité. Hein, c'est Bergson qui dit ça, si je ne m'abuse. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que l'action révèle la vérité. C'est en faisant les choses, c'est en faisant la cuisine que vous allez voir si vous êtes bon en cuisine, si vous avez du goût pour la cuisine. Vous voyez, en gros. Pour plus d'explications, je vous indiquerai quelqu'un qui est parmi nous et qui pourra vous aider. Professeur de philosophie, c'est très important. Bref, eux, ils se lèvent et ils quittent Jean-Baptiste. Ils étaient au chaud avec Jean-Baptiste. Et ils quittent Jean-Baptiste. Il y a donc bien un passage qui va se faire. Et ils vont suivre Jésus. Jésus qui remarque qu'il est suivi. Et alors, il a une réaction étonnante, enfin, moi, que je trouve étonnante, c'est qu'il leur demande ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour pouvoir trouver le bonheur, l'exprimer. Alors, ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répond, « Venez et voyez. Hein? » Je trouve que la démarche commerciale est un peu juste. Oui, vous allez acheter une voiture. Et le vendeur vous dit, achète et tu verras bien. Plus jamais on fait des trucs pareils. Je suis sûr que vous passez 40 millions d'années sur Internet pour savoir si vous faites bien d'acheter tel truc ou tel autre, voyez. Non, mais tu verras. Achète et tu verras. La démarche est inverse, voyez. Venez et voyez. Alors, venez avec Jésus, et voyez, mais il ne dit pas quoi. Je ne sais pas si vous remarquez, Jésus ne dit pas « Venez et voyez que vous serez bien, que les couvertures seront chaudes, que ça sera bien sympathique, que la communauté vous rendra heureux, que etc. » Non, rien. Venez et voyez, mais rien. Venez et voyez, pas de programme. Quand même étonnant. Alors, dans la deuxième partie du texte, tout de suite, va y avoir la solution. Il va y avoir une explication, mais alors Jésus s'y prend d'une drôle de façon pour nous expliquer ce que nous aurons à voir, ce qui va être révélé. C'est le fameux appel de Pierre. Peut-être qu'il faudrait que je le relise, parce qu'il y en a qui dormaient peut-être tout à l'heure. « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Donc c'est pour ça qu'il faut causer les uns avec les autres. Hein. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous suivons Jésus, si nous restons en sa présence, si nous lui faisons confiance, lui qui nous connaît, comme il connaissait Simon, parce que s'il dit « Tu es Simon », ça veut dire que Jésus est en train de nous dire à chacun « Je te connais par ton prénom, je sais qui tu es, je sais le fils de qui tu es, je sais quels sont tes talents, quels sont tes charismes, je le sais », nous dit Jésus aujourd'hui. Tu t'appelleras Képhas. Parce que je sais qui tu es, moi, le Seigneur, ton Dieu, je peux te dire ce que tu feras pour être heureux, ce que tu mettras en route pour être heureux. Tu t'appelleras Képhas, tu t'appelleras Pierre, Pierre de fondation. Tu seras la fondation de l'Église. Il ne dévoile pas tout de suite. Mais c'est comme ça que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous. Parce que sinon, vous vous rendez compte, si Pierre avait su tout de suite qu'il serait le premier pape, enfin, moi, on m'aurait dit, tu seras prêtre toute ta vie, à 15 ans, mais je serais parti en courant, ça c'est évident. Vous voyez, le bon Dieu est rusé quand même aussi, il est malin. Pour nous amener au bonheur, le bon Dieu ne va pas tout nous révéler tout de suite. Mais c'est lui qui va nous révéler qui nous sommes, simplement parce que nous aurons accepté d'être en sa présence. Très bien. Mais on pourrait aussi se poser la question... Comme la Sainte Vierge, le jour de l'Annonciation, mais Seigneur, bon d'accord, le programme est alléchant finalement, puisque tu vas me révéler qui je suis et quelle est ma mission, et donc je serai heureux dans cette mission, ok, j'ai bien compris. Mais Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Mais c'est ce que la Sainte Vierge dit au moment de l'Annonciation. On est légitime de lui dire ça. Et la suite du programme, moi qui ai 93 ans, c'est quoi, Seigneur? Comment cela va-t-il se faire? Parce que notre mission, vous savez, elle s'arrête qu'à notre mort. Hein. Donc la mission, ne vous croyez pas suffisamment vieux pour être exempt du programme, hein, je dis ça, et ne vous croyez pas suffisamment malade, je parle pour vous qui êtes malade, pour être exempt du programme. Ça concerne tout le monde, sans limite d'âge. De 0 à 300 ans. Je vais plus loin qu'Hergé. Et là, la solution se trouve dans la première lecture, où on a une histoire incroyable, quand on y regarde de près. Une histoire dingue d'un prêtre, Élie. Vous allez voir plus tard, alors ne confondez pas avec le grand prophète Élie, hein, c'est un prêtre du temple, bas de gamme. C'est un prêtre bas de gamme, puisqu'il ne va pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Le petit Samuel vient le voir, j'entends des voix, j'ai quelque chose, machin, qui est bizarre, etc. Alors, pff, t'inquiète, va te recoucher. Bah, le mec, bas de gamme. Niveau discernement, rien. Quand même, tout de même un petit peu de la bonne volonté, parce qu'il va se laisser réveiller 3 fois. Moi, j'en connais qui se lèvent, qui mettent sur leur téléphone « On me réveille pas ce soir ». Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Non, Élie, il reste quand même à disposition. Mais le petit Samuel, il entend des voix, enfin, il entend Dieu lui parler. Et il va aller voir celui qui est, normalement, la relation avec Dieu. Et ça, c'est un très, très intéressant, au moins sur un premier point, c'est que Dieu va pouvoir guider Samuel avec le pauvre prêtre tocard, enfin pas terrible, bas de gamme, mais tel qu'il est. Voilà. Ça, c'est une espérance pour vous. C'est-à-dire que pour répondre à la vocation du bon Dieu, à la vocation du bonheur que le Seigneur vous adresse, n'ayez crainte, même avec des tocards comme nous, vous vous en sortirez. C'est ça le premier message. Pas grave. Du coup, entre parenthèses, vous pouvez arrêter de nous critiquer, parce que ça ne sert strictement à rien. De toutes les façons, à la base, on est critiquable. Ça va? Je continue. Vous inquiétez pas, juste 3 minutes. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? C'est que le Seigneur est en train de nous dire, si tu veux me suivre, si tu veux entendre ton prénom, si tu veux accomplir ta mission. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est ce que Samuel va mettre un peu de temps à comprendre, mais qui va finir par comprendre, c'est que le bon Dieu nous parle dans notre conscience. Souvent, vous me dites, mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu me parle? C'est notre conscience qui va nous éclairer. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de Samuel. C'est pas moi qui le dis, c'est un très très grand bonhomme qui s'appelle Newman, pas Paul, parce que je vois tout de suite qu'il pense au cinéma, machin, etc. Cinéma, Paul Newman, ma sœur, elle adore le cinéma. Non, c'est Newman, c'est un grand théologien qui a été protestant, qui s'est converti, qui a écrit de très 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 belles choses, je vous invite à aller. Et lui, il dit cette phrase, « La voix de ta conscience » est la voix même de Dieu. La voix de ta conscience est la voix même de Dieu. N'attendez pas que le bon Dieu vous envoie des fax. N'attendez pas que le bon Dieu vous envoie un SMS. Parce que nous avons une conscience. Et cette conscience nous renseigne, et nous renseigne très bien. Et là, chers frères et sœurs, je pourrais disparaître d'ici parce que j'ai rien à vous apprendre, enfin j'ai rien à éclairer de plus, si ce n'est qu'à nous le rappeler, une vérité qui est toute simple. On le sait très bien. Mais on sait très bien quand on, quand, comme dans la deuxième lecture, on va trop loin avec notre corps, et etc. Cette deuxième lecture, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre, bon, bah, tu vois bien, quand c'est limite, limite avec ton corps, quand c'est le quatrième whisky, c'est bon, quoi. Pas terrible. Tu le sais bien. Et bien, c'est cette même conscience qui te renseigne sur ce que je veux, moi, pour toi. Mais c'est très important, la conscience. Souvent, vous venez nous voir pour qu'on vous aide à discerner. Mais l'exercice va tout simplement consister à vous renvoyer à votre conscience, avec plus ou moins d'habileté. Mais c'est jamais moi qui vais vous révéler ce que Dieu est en train de vous dire à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Et surtout, si vous rencontrez des personnes qui font ça, partez en courant, parce que ça s'appelle un gourou. Quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire. Nous avons une conscience. Et le petit Samuel, ben, il nous renseigne là-dessus. Tu as une conscience et c'est par cette conscience que je te parle. Et d'ailleurs, Samuel finit par le comprendre très bien. Et je pense que ce qu'il va dire à la fin de la page d'écriture qu'on a entendue tout à l'heure, ben c'est quelque chose que nous pouvons nous répéter maintenant, au fond de notre cœur. Et tous autant que nous sommes, quelle que soit la vie que nous avons, que cette vie nous l'estimons extrêmement pécheresse, que cette vie nous l'estimons plutôt pas mal, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ça vaut pour tout le monde. La petitesse de Samuel, la fragilité des disciples qui suivaient Jean-Baptiste, c'est nous. Et nous pouvons tous dire la phrase du petit Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que nous avons tous les moyens d'entendre Dieu qui nous apprend le bonheur, qui nous apprend à demeurer avec lui, comme dit saint Jean. Si vous le voulez bien, entrons pour une petite minute. Je vais demander à monsieur l'organiste, encore une fois, pardon, de ne pas interpréter le sermon, de faire un petit moment de silence, au moins pendant 30 secondes, pour que nous rentrions à l'intérieur de nous-mêmes et que nous puissions dire au Seigneur, « Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. » Amen.